sur le matin. Sur les ondes de Boulevard 102.1, il est présentement 7h04. Vous pouvez nous joindre au 418-971-1021. On aime toujours vous lire, nous écouter via la web radio sur le blvd.fm, notre application également blvd102.1. Téléchargez-les sur App Store, Google Play Store. C'est très pratique dans le temps des fêtes si vous êtes à l'extérieur de la ville de Québec. Et twitch.tv/blvd/fm pour nous rejoindre. On va commencer avec une petite mise à jour de la circulation, Max.
Yes, c'est un lundi matin assez difficile là, déjà avec des accidents à vous signaler. Ça semble avoir été ramassé là, pour ce qui est d'Henri IV Sud, hauteur de l'avenue Chauveau, la voie de droite qui était bloquée, mais des répercussions qui se font toujours bien sentir. Sinon, capitale ouest, hauteur boulevard Saint-Jacques, il y a un accident également. Je vous dirais que ça refoule jusqu'à hauteur de Laurentienne. Et l'accès au pont Pierre-Laporte, c'est au rouge en direction nord.
À la météo, moins 11 degrés, moins 20 avec le facteur de refroidissement éolien. Moins 9 au maximum aujourd'hui avec 40% de possibilité d'averse de neige. Ce sera moins 6 demain et 0 degré pour mercredi et jeudi. Mercredi de la neige, jeudi alternance de soleil et nuages. Avant de faire un gros topo de ce qui se passe avec le Mont-Saint-Anne qui était encore une fois fermé au skieurs cette fin de semaine, on va parler avec un commerçant, Sylvain Laroche, et avec une détentrice d'abonnement de saison, France Tachereau. Max, j'imagine qu'on débute avec l'attentat en Australie.
Ouais, en effet, à l'international, des nouvelles poches un peu en fin de semaine. L'Australie qui est dans un deuil national aujourd'hui, au lendemain d'une attaque terroriste sur la plage de Bondi, qui est du côté de Sydney, là, 15 morts, 42 blessés, alors que la communauté juive célébrait la fête d'Hanouka. Selon la police locale, les deux tireurs qui était un père et son fils, Zahid Akram, 50 ans, et Navid Akram, 24 ans. Le père, qui était détenteur légal de 6 armes à feu, il a été abattu lors de l'intervention policière. Son fils, connu des services de renseignement depuis 2019 pour des liens avec une cellule extrémiste, et est hospitalisé de son côté. Les autochtones qui affirment que les assaillants avaient prêté allégeance à l'État islamique et qu'un engin explosif artisanal a été découvert dans leur véhicule. Ce qui circule beaucoup présentement, c'est les images d'un civil, Ahmed Al Ahmed, qui est salué comme un héros pour avoir désarmé un des assaillants, malgré le fait qu'il avait subi des blessures. Vidéo qui est devenue virale sur le web. Ce gars-là a probablement sauvé des dizaines de vies en attaquant par derrière l'assaillant qui était armé. Le premier ministre australien, Anthony Albanese, qui a qualifié l'attaque d'antisémite et de terroriste, a annoncé un deuil national, comme je vous le disais, et se dit ouvert à renforcer la législation sur les armes à feu.
Ce qui est fou de constater dans cette nouvelle-là aussi, c'est les réactions à l'international. Quand on parle d'attaques terroristes, là, on parle aussi... tu disais quel groupe qu'ils ont...
Ils avaient prêté allégeance à l'État islamique.
État islamique, je ne vais pas me tromper de groupe. Écoute, la France, tout ce qui est Union européenne, là, le présidentiel, ont tweeté, ont écrit pour dire « Nous sommes de tout cœur avec vous du côté de l'Australie » et tout ça. C'est quelque chose qui est encore un peu dans l'angle mort de tout le monde, dans l'État islamique, comment est-ce qu'on peut se faire attaquer au niveau terroriste. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup plus que si c'était un loup solitaire et autres, du fait qu'il y a allégeance à une organisation terroriste. Ça concerne tout le monde dans le monde.
Exactement, allégeance, famille, en plus père avec son enfant. Puis moi, ça me rappelle qu'il y a de cela environ un mois, on parlait des services secrets au niveau du Canada qui étaient débordés. Qui était épuisé, qui était débordé, justement, qui n'était pas capable de creuser toutes les enquêtes qu'il désire creuser. Donc, à souhaiter qu'on investisse là du côté du Canada avant qu'on vive une tragédie, nous aussi.
Autre fusillade survenue en fin de semaine, samedi, que ça s'est passé à l'Université Brown dans le Rhode Island aux États-Unis. Ça a fait 2 morts, plus de 40 balles qui ont été tirées dans le bâtiment d'ingénierie de l'université. Ça a blessé 9 personnes. Et là, ce qui retient l'attention ce matin, c'est qu'une personne d'intérêt qui était détenue, mais elle a été libérée hier soir. Fait que ça laisse tout le monde avec l'inquiétude que le tireur soit encore en liberté parce qu'il n'y a pas eu d'autres arrestations. Toutes les activités de l'Université Brown qui ont été annulées pour le reste de la session. Et là, on espère qu'on puisse rapidement mettre le grappin sur l'individu qui a commis ces actes-là. Tant qu'à être aux États-Unis, on va y rester. Le réalisateur américain Rob Reiner et son épouse Michelle Singer, qui ont été retrouvés morts à leur domicile dans le sud de la Californie. La police de Los Angeles qui a confirmé la découverte de deux corps dans la résidence du cinéaste. On n'en révélait pas l'identité, mais selon NBC, là, le couple qui serait décédé des suites de coups de couteau. Il y a une enquête qui est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Plus près de nous, dans les faits divers, un détenu se trouve dans un état critique à la suite d'un événement jugé de nature suspecte survenu samedi soir à l'établissement de détention de Québec. Les policiers de la Sûreté du Québec qui ont été appelés à intervenir peu après, 22 heures après la découverte d'un homme inanimé à l'intérieur de la prison. Le détenu âgé d'une vingtaine d'années qui a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier pour y soigner de graves blessures.
Ça brasse dans le milieu carcéral parce qu'il y avait eu également une attaque, si je ne me trompe pas, Port-Cartier aussi vendredi. Hein?
En effet, je vais aller chercher les détails, là, mais on avait entendu parler.
Parce que c'était vendredi fin d'avant-midi, là, si je ne me trompe pas. Là,
exact, un agent correctionnel qui avait été poignardé par un détenu au cou. C'est vers midi, là, vendredi ou jeudi, que ce serait arrivé. C'était jeudi. Jeudi midi que c'est arrivé, puis c'est vendredi qu'on a été mis au courant. C'est un stylo qui aurait été planté dans le cou de l'agent correctionnel.
Histoire qu'on entend souvent au terme d'attaque, c'est tout le temps avec des objets comme ça, stupides, qui deviennent objets contondants. Puis c'est un délinquant qui avait été récemment reconnu coupable de meurtre. Puis ça vient avec toute la violence qu'on entend dans les prisons, dans les pénitenciers. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'ils ont accès, à ces choses-là? Puis pourquoi est-ce qu'ils réussissent à attaquer les agents correctionnels comme toutes les histoires nous racontent dans les derniers mois?
Et puis là, ça me fait penser aux fameuses livraisons de drones qu'il y a de plus en plus, puis à ces gangs criminalisés qui ont pris le contrôle de certaines ailes, là, justement, dans nos pénitenciers ou nos prisons. Donc, il y a vraiment un problème criant de sécurité là, à l'intérieur de nos murs.
Une personne âgée est décédée hier après-midi à la suite d'une sortie de route sur l'autoroute du Frère-Montmorency vers midi 45. La personne circulait en direction est quand elle a perdu le contrôle du véhicule près de la sortie qui mène au boulevard des Capucins. Le véhicule qui a fait des tonneaux, ça n'a pas impliqué d'autres voitures. Le décès qui a été constaté après le transport en centre hospitalier avec des blessures graves. La passagère du véhicule qui a aussi subi des blessures légères, c'est la thèse du malaise qui est privilégiée par la SQ. Ce qu'on a appris en fin de semaine, c'est que la ville de Lévis imposera une hausse de taxes uniforme de 3,5% à ses résidents et commerçants. C'est le Journal de Québec qui nous est arrivé avec l'info à l'effet que le maire Stephen Blainey donc rejetait la proposition de surtaxer certains commerçants pour couvrir le manque à gagner de 13,9 millions, la petite surprise qui avait été laissée par l'administration Laulier. Là, ce qu'on nous dit dans le journal, c'est qu'on va économiser 3,6 millions avec des coupes dans l'administration et ça, c'est l'une des six stratégies qui seront dévoilées plus tard aujourd'hui, parce que je vous rappelle, c'est 13,9 millions qu'on a à aller chercher. Là, on va sauver 3,6 millions. Ça en laisse quand même encore pas mal là, pour lesquels on doit trouver des solutions.
Bien hâte de voir les six stratégies de Stephen Blainey, qui, je le rappelle, va être en entrevue avec nous aux alentours de 8h30 mardi pour faire justement le bilan de ce premier budget. Chose certaine, il peut mettre son empreinte sur la ville de Lévis rapidement avec ce budget-là. Puis Pascal, tu vas être d'accord avec moi, je pense que la décision est bonne de ne pas surtaxer les commerçants comme le directeur général de la ville lui suggérait à 24,3%, là, ça aurait créé un ressac là-bas.
Ressac non anticipé. Pendant toute la campagne, eux n'avaient aucune idée, puis c'était pas dans les brancards, puis c'était pas dans les sous-paroles qu'il y aurait une possibilité qu'ils soient taxés comme ça. Ça aurait énormément nuit à l'économie. Parce que, justement, jamais ça a été prononcé comme quoi ils allaient être augmentés à cette... à cette capacité-là. Ouais. Moi, je voulais dire une incapacité de payer, finalement.
Clairement, il y a plein de commerces qui auraient fermé, exactement. Oui.
Mais pas aussi Stephen Blainey. Puis ça, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été plus transparent pour la suite puis la passation des choses, parce que finalement, t'as l'air de quelqu'un qui ment.
Ben, tu sais, Gilles Laulier termine avec un moratoire sur la construction qui n'a pas été transparent du tout, qui est arrivé. Puis là, tu sais, quand on parle de stratégie communicationnelle, là, on va parler du Mont-Saint-Anne bientôt, qui a une mauvaise stratégie de communication. La ville de Lévis, c'est la même chose. On nous a annoncé le moratoire le 23 décembre l'année passée. Là. Donc, on s'entend avant Noël pour souhaiter que ça passe à travers le réveillon puis qu'on n'en parle plus.
C'est mais les gens s'en sont souvenus. Oui.
C'est clair que c'est une stratégie politique. Et là, ce trou-là de 13,9 millions, la fin du règne de Gilles Laulier, malheureusement, est entachée là, par des mauvaises décisions. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Jean-François Simard, qui a profité de son entrevue éditoriale avec le Journal de Québec pour partager sa vision de l'avenir du quartier Saint-Roch, qui veut confier au président du Réseau des universités du Québec, Alexandre Cloutier, le mandat de l'alimenter afin de faire de Saint-Roch un quartier universitaire. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut partir de quelque part. Ça prend un effet tremplin. Cet effet tremplin-là, Jean-Paul Lallier le voyait à travers les arts. Ben, lui, le voit à travers l'identité universitaire de Québec. Il dit que s'il y a une ville universitaire au Québec, ben, c'est bien Québec. Il trouve que c'est une identité qui a toujours été la nôtre et qu'on doit exploiter davantage. Je ne veux pas trop en dire avant une annonce qui doit se faire en janvier avec le maire Marchand.
J'aime qu'on ait enfin une vision pour Saint-Roch.
Exact.
Et là, Jean-François Simard va être en entrevue avec nous. Bon, maintenant, parce qu'il nous dévoile le plan, il va attendre de le présenter avec le maire et avec raison.
Mais c'est ça, c'est intéressant les mots que tu utilises précisément, parce qu'en ce moment, on n'a pas de plan, mais on a une vision. Vision, c'est plus large, c'est moins précis, mais c'est quelque chose au moins.
Ce que je chantais pas qu'on avait dans les dernières années. Exact. Alors, je suis très heureux de ça. On va en parler avec Denis Gravel dans le Pit Stop à 7h45. Et Jean-François Simard, le ministre de la Capitale-Nationale, sera avec nous à 8h30. Au sport, Max?
Yes, le Canadien de Montréal qui a joué l'un de ses meilleurs matchs de la saison hier en route vers une victoire de 4-1 face aux Oilers d'Edmonton au Centre Bell. Alexandre Texier, Ivan Demidov, Joe Veleno et Nick Suzuki qui ont marqué deux mentions d'aide chacun pour Lane Hutson et Juraj Slafkovský.
Lane Hutson, c'est deux passes dans ses trois derniers matchs. C'est exceptionnel ce qu'il fait, ce défenseur-là.
Jakub Dobesh qui a été très bon en bloquant 27 rondelles. Connor McDavid qui a été limité à une mention d'aide. Leon Draisaitl qui a été blanchi. Le CH qui reçoit les Flyers de Philadelphie à Montréal demain. Pour ce qui est de nos remparts, beau week-end avec deux victoires. Et on a accordé seulement deux buts pour ce qui est du week-end en entier. Victoire de 5-1 samedi face aux Sea Dogs de Saint John. Et victoire de 3 hier face aux Cataractes de Shawinigan. On reprend l'action mercredi au Centre Vidéotron, le Drakkar de Bécomo qui sera en ville. Et au football, victoire des Vikings du Minnesota par la marque de 34-26 sur les Cowboys de Dallas hier. Ce soir au Monday Night Football, les Dolphins de Miami visite les Steelers à Pittsburgh.
Les Steelers se doivent absolument de remporter ce match. Ils veulent conserver le premier rang de la section nord de la conférence américaine avec la victoire des Ravens de Baltimore qui ont blanchi tes pauvres Bengals de Cincinnati,
c'est
Pascal, hier.
Pas la saison de l'équipe. Joe Burrow qui réfléchit à son avenir.
Ouais, il est magané, le Joe.
Bien, à un moment donné, c'est correct, puis on en reparlera, mais de réfléchir à est-ce que je suis trop magané pour continuer de performer?
En effet.
Est-ce que je suis trop magané pour continuer de performer, oui, mais est-ce que je vais me scraper finalement pour tout le reste de ma vie?
C'est ça, pour tout le reste
je
de sa vie.
Je comprends sa réflexion.
Exactement. Il y a Andrew Luck, un jeune carrière jadis avec les Colts d'Indianapolis, qui a pris sa retraite surprise à 28 ans, justement, parce qu'il en avait assez d'être blessé. Ouais. Il avait déjà des enfants, puis il disait, ben moi, je veux prendre soin de mes enfants plus tard. Alors, est-ce que Joe Burrow va suivre les mêmes traces? C'est ça.